Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Vincent Parisot.
Premier invité des auditeurs ont la parole, Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion d'un numéro spécial que vous sortez aujourd'hui, baptisé Réparer la France. Comment retisser les liens, comment construire des ponts dans cette France fractionnée, comme l'a montré le premier tour de la présidentielle. La France qui vient de voter n'est jamais apparu autant divisé, quatre camps en opposition, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils sont vraiment inconciliables ?
En tout cas, on voit bien que ce ne sont pas seulement des rivalités d'ambition, des querelles de personnes ou même d'appareils partisans. On voit bien qu'à chacun de ces quatre noms correspondent des fractions de la société française qui ont beaucoup de mal actuellement à se comprendre et à se parler. Et c'est là-dessus qu'on a voulu travailler dans ce numéro spécial, d'essayer de voir comment justement renouer le contact, renouer le dialogue, mettre en commun des accords et des désaccords, d'être capable de ne pas être d'accord sur certaines choses pour pouvoir mieux construire par ailleurs. Voilà, on a essayé de regarder ça un peu dans tous les domaines de l'activité à travers toutes les rubriques du journal.
Parce que quand on observe attentivement les résultats du scrutin présidentiel, les lignes de fracture, elles apparaissent clairement. Emmanuel Macron, il l'emporte largement, voire très largement, dans les grandes villes. Et puis le vote protestataire, il est en revanche très présent dans le monde rural, dans les zones désindustrialisées, et puis dans la périphérie des villes. Ça, c'est maintenant extrêmement clair.
Ça saute aux yeux quand on regarde les cartes. Effectivement, la fracture territoriale est extrêmement forte, extrêmement marquée, et elle se manifeste très clairement dans les urnes, effectivement. Et c'est certainement un sujet prioritaire pour toute la société française, pas seulement le président de la République, pas seulement le gouvernement. Je pense que tous les acteurs de la société française ont à se pencher sur cette question. La France ne restera pas un pays prospère d'une vingtaine de grandes métropoles entourées de zones à l'abandon. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça.
Eh bien, Martine veut témoigner. Elle nous appelle de Château-Chinon dans la Nièvre. Bonjour Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire, Martine ?
Non, mais ce qui me fait rire, le monsieur, le directeur de la Croix.
Oui, c'est ça.
Il a monsieur Goubert.
Si vous voulez, c'est pas forcément du lien social qui manque, parce que sur le territoire, il y a des tas d'associations qui se bougent comme elles peuvent, qui organisent tous les dimanches, il se passe quelque chose, il y a un bal, un truc, un thé. Mais si vous voulez, il n'y a pas de travail, quoi. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de transport.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter où vous vivez, où est le premier train
Le premier train est à 1h. Moi, j'habite dans le Morvan. Le premier train, il est à 1h. Hein, il est à 1h de voiture, le premier train. La première autoroute est à 1h. Alors, c'est un choix de vie. Hein. Oui. Moi, je suis très heureuse d'être en pleine campagne.
Il y a des médecins ?
Alors, non, pas du tout. Château-Chinon, c'est quand même la seule ville, la seule sous-préfecture dans laquelle il n'y a plus de médecine libérale.
Il n'y a plus aucun médecin libéral à Château-Chinon.
Il y a des médecins d'hôpital, il y a deux pharmacies, mais il n'y a pas de médecin libéral. Le dernier libéral est parti. Si vous voulez, ça a été mis en avant dernièrement avec Jean-Paul Hamon, qui est le président de la Fédération de médecine de France, qui était venu jusqu'à Château-Chinon. Il avait fait une marche jusqu'à Château-Chinon. Si
est-ce que, par exemple, il reste des administrations chez vous encore ?
Oui, il y a l'école.
Encore un petit peu.
Bien sûr, il y a l'école, il y a une poste. Il y a la DRFI, pour la DRFI, c'est les impôts. Bien sûr, mais enfin, si vous voulez, on ne peut pas vivre avec de l'emploi public. On ne peut pas imaginer un territoire qui ne vit qu'avec de l'emploi public.
Bien
sûr. La Russie des années 50. Hein, moi, ce que je voudrais dire, puisque vous en donnez l'occasion, si vous voulez, c'est d'abord, il y a un déterminisme territorial pour les jeunes qui est redoutable. Parce que les jeunes qui sont dans ces territoires, s'ils n'ont pas la chance d'avoir un environnement familial ad hoc, ils vont choisir la proximité pour l'orientation, relativement au vrai choix de vie, parce que d'abord, il n'y a pas de fric pour aller pensionnaire quelque part, parce que c'est loin, Et puis, donc, il faut savoir que quand on implante une formation dans ces territoires, on détermine l'avenir de tous les jeunes du coin,
parce qu'ils vont tous passer par là.
Ouais. Donc, vraiment, ce déterminisme territorial est terrible. Ouais. Et puis, ce sont des territoires, enfin, c'est vrai pour la Nièvre, alors on n'en parle pas parce que il ne faut pas se climatiser. Hein, donc, on tourne en rond et ça ne tourne pas en rond, là. Hein.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et juste une question, Martine, parce qu'on a vu la corrélation avec le vote du premier tour.
Alors on fait quoi maintenant, hein? On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On le sait. tous les indicateurs de ces territoires sont au rouge. Mmh. Les indicateurs sanitaires, les indicateurs d'orientation des gamins, les indicateurs de risque de décrochage scolaire, les indicateurs de travail. Mmh.
Mmh. Hein, vous voulez dire, on sait, mais qu'est-ce qu'on fait, finalement, c'est ça.
On sait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais on le sait. Alors, entre ceux qui ne veulent pas le dire parce que c'est une mauvaise image, ben ouais, c'est une mauvaise image. Mmh. Et puis, ceux qui savent pas que ça existe, hein, parce qu'on a aussi, quand même, des décideurs qui ne savent même pas que ça existe. Hein. Comment faire? Est-ce qu'on fait comme aux États-Unis, on ferme des territoires entiers, aux États-Unis, on ferme tout, là. Hop.
Mais comment faire? Dans votre question, Martine, au fond, c'est tout le problème de l'aménagement du territoire, hein, Guillaume Goubert.
Alors, effectivement, il y a des enjeux considérables et Martine les a extrêmement bien décrits. Je pense qu'une des choses dont on a besoin aujourd'hui, c'est de partage d'expérience. C'est-à-dire que, à la Croix, pour observer depuis longtemps tous ces phénomènes, nous avons la conviction qu'il n'y ait pas de problème qui n'est pas quelque part, à un endroit donné, trouver une solution. Et que ceux qui ont trouvé des solutions, eh ben, il faut qu'ils partagent leurs expériences et il faut que les autres puissent s'inspirer d'eux. Il y a des régions de France qui sont dans des situations compliquées et qui, malgré tout, ont trouvé, je pense par exemple à la vallée du Diois dans la Drôme, qui ont trouvé le moyen de redévelopper un certain nombre de choses. Alors ils sont peut-être un peu plus près des grands courants de communication,
notamment du train, par exemple.
Notamment du TGV. Je suis bien conscient de cet aspect des choses. Néanmoins, le climat, tout ça, enfin, on peut dire toutes sortes de choses. Néanmoins, il y a certainement dans bien des lieux des expériences dont il faut s'inspirer pour redévelopper des circuits courts, par exemple en matière d'alimentation. Le fait, s'il n'y a plus de commerce dans les centres-villes, c'est parce que tout le monde va au supermarché. Dans la périphérie, je veux dire, il faut que
tous... Mais pourquoi on va au supermarché? Pour des questions de pouvoir d'achat. Et voilà, et tout ça, c'est un serpent qui se mord la queue. Restez avec nous, Martine. Juste au niveau communication, au niveau numérique, au niveau téléphone, internet, etc., ça va du côté de Château-Chinon?
Ah, ben ça mouline, hein.
Ça mouline, hein. Non, mais c'est vrai.
C'est clair, il n'y a pas la fibre. Donc, l'autre jour, il a fallu que je dépose un dossier sur un serveur. Enfin, j'ai mis les journées entières.
Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, Martine.
On n'est pas la seule. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est la solution, elle est certainement par du partage, certainement par du partage d'expérience, mais aussi par un portage politique.
Une volonté. À un moment, va falloir avoir une volonté politique de retourner sur ces territoires.
Qu'est-ce qu'on amène sur ces territoires? Comment on fait pour y amener des médecins? Comment on fait pour y amener la vie? Enfin, la vie, la Nièvre perd 1500 personnes tous les deux ans. C'est-à-dire qu'on ferme une ville tous les deux ans. Vous rendez compte? On fait quoi? Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est pas vrai. Il y a l'INSEE qui sort les chiffres tous les ans. Enfin, la santé, ce sont des gens qui sont... Et en plus...
On est obligé de vous couper, Martine, parce que le temps nous est compté, mais vous avez fait une magnifique démonstration, en tout cas, justement, de ce qui ne va pas aujourd'hui et de ce qu'il faut réparer.
Merci, Martine, d'avoir témoigné au 32-10. On fait une petite pause. Dans un instant, on va accueillir Vincent qui va nous parler de la fracture numérique dans les Ardennes où il habite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière,
Vincent Parisot
et Guillaume Goubert, le directeur du quotidien La Croix, qui sort un numéro spécial intitulé « Réparer la France, comment on retisse les liens ?» entre la France des grandes villes, la France qui communique, la France qui bouge, la France qui finalement va plutôt bien, et puis cette France que l'on dit périphérique, la France des campagnes, mais pas seulement, et qui est victime d'un certain nombre de fractures. Et là, on va parler de la fracture numérique. Hein. On évoquait avec Martine tout à l'heure l'absence de médecins, d'administration, de magasins, l'éloignement des transports. La fracture numérique, on en parle avec Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour, à tous.
Bienvenue.
Vous nous appelez des Ardennes. Hein.
Oui, exactement.
Saint-Loup-Terrier.
C'est ça.
Le téléphone passe bien quand même là-bas.
Oui, enfin.
Non, mais je dis ça parce que vous m'appelez avec un portable, donc ça passe bien.
Oui, mais là je suis à Charleville-Mézières, donc le chef-lieu du département, donc ça passe bien. Non, oui, l'auditrice précédente a bien résumé tous les points un peu faibles, hein, de la vie en campagne. Moi, je voulais faire un point précisément sur l'accès à Internet. Donc, j'ai 30 ans. Oui. Donc, c'est relativement jeune. Donc, je suis assez sensible à tout ça.
Bien sûr.
C'est vrai que dans les Ardennes, donc, j'habite un petit village à Saint-Loup-Terrier où on n'a aucun accès au débit à Internet. Donc, c'est à mettre en parallèle un peu avec les fermetures des services publics. Alors, on nous dit, il n'y a plus vraiment de raison de maintenir un réseau très fin puisque tous les services sont maintenant disponibles via Internet, sauf qu'en parallèle, ben, nous, on n'a pas de...
Oui, c'est
vous n'avez pas d'accès, vous n'avez pas de haut débit.
Alors, on peut avoir accès au débit via un système par parabole, qui est très coûteux et qui, en plus, c'est le XXe siècle. Hein.
Donc, comme disait Martine, ça mouline. Dès que vous avez de la vidéo, ça devient supportable.
Ça mouline, c'est un débit limité mensuel. Donc, c'est carrément inadapté. J'ai deux enfants en bas âge qui, d'ici 5 ou 10 ans, ont peut-être besoin d'un accès pour accéder au contenu culturel, manière générale. On a des projets qui ont été tenus un temps par le Conseil général ici dans les Ardennes, qui a été dilué ensuite avec la refonte des régions, qui visiblement le projet est repassé au Grand Est. Mais l'impression générale, c'est vraiment que les instances politiques se désintéressent, prennent pas ce sujet-là au sérieux. Alors je pense que de plus en plus, on va quand même aller vers une fracture à ce niveau-là. Je parlais du contenu culturel.
Un jeune des Ardennes, il a autant le droit de pouvoir regarder tranquillement un film sur sa tablette qu'un jeune de Paris, de Lyon ou de Marseille.
Et puis ça mettre en lien aussi avec le chômage et avec l'attrait pour des entreprises nouvelles de s'installer dans des territoires tels que les Ardennes. Mm-hmm. Sans connexion Internet correcte, l'attrait est assez limité. Au niveau infrastructure ferroviaire, on est, je pense, relativement bien doté, avec des accès faciles vers Paris notamment, et vers la Marne avec une ville comme Reims.
Sur la mobilité, ça va à peu près encore.
Voilà. Sur la mobilité, ça va à peu près. Bon, le département, même s'il souffre d'une mauvaise réputation, est quand même relativement bien situé à proximité de Paris et puis de la Belgique et du Luxembourg.
Oui, mais la fracture numérique, c'est vrai, Guillaume Goubert, aujourd'hui, c'est absolument essentiel dans la société dans laquelle on vit.
C'est essentiel de plusieurs manières. Il y a l'aspect physique dont on vient de parler, technique. Et là, je pense qu'il y a un véritable chantier national. Et si, quand on parle d'investissement, certainement, et à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, certainement créer les canaux de communication numérique disponibles pour tous les citoyens est certainement un enjeu de première importance, et c'est au fond pas si coûteux que ça. C'est sans doute beaucoup moins coûteux que le TGV. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'entraînement, l'agilité qu'il faut pour utiliser Internet, or se trouve de plus en plus souvent face à des administrations ou des entreprises qui leur disent allez sur Internet, télécharger tel formulaire.
Notamment dans les zones rurales, c'est ce que disait Vincent. Voilà. On ferme l'administration et on leur dit c'est pas grave, vous pouvez aller sur Internet.
Et là, il y a un très gros enjeu, et notamment, je pense, là, dans le domaine de l'intergénérationnel, je pense qu'il y a un vrai service que les plus jeunes pourraient rendre aux plus âgés, soit pour les aider à apprendre, soit pour les assister dans ce qui va être de plus en plus souvent des démarches qui passent par le numérique.
Mmh. Donc il y a des réseaux de solidarité à monter, c'est ça que vous dites, Guillaume Goubert.
Il en existe déjà, mais il faut développer.
Il faut qu'il y ait quand même une volonté politique derrière l'aménagement du territoire.
Alors, sur l'aménagement du territoire, il faut une volonté politique. Ensuite, sur l'aspect associatif, c'est une volonté qui est plus locale, où les politiques ont un rôle à jouer. Ils peuvent encourager, l'administration aussi, ils peuvent encourager justement des initiatives en la matière.
Mmh. On accueille Martine, qui est dans la Loire. Bonjour Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour, je suis très contente de pouvoir avoir la parole.
Ah bah, nous, je vous en prie, très contente de vous la donner, surtout.
Allez-y.
Voilà, je voudrais défendre un peu la profession des éleveurs canins et félins.
Oui.
Parce qu'on est en grande, grande difficulté.
Oui.
Voilà, on est concurrencé directement par les pays européens qui ne respectent pas la réglementation européenne, c'est-à-dire payer la TVA sur la vente de leurs animaux, payer les cotisations, des charges sociales et avoir les installations classées comme nous, on est dans l'obligation de les avoir en France.
Mmh.
Et concurrencé directement par les Français, c'est-à-dire tous les particuliers qui eux-mêmes produisent des chiots, des chats, des chatons, et qui eux-mêmes aussi ne payent pas, font tout ça au noir, ne payent pas ni la TVA.
Mmh.
Ils n'ont les installations classées et n'ont pas toutes les charges que nous, on doit.
Mmh.
On est considéré comme agriculteur, voilà.
Ouais. Vous dépendez du ministère de l'Agriculture.
Alors, comme la branche de l'agriculture, encore pire délaissée, parce que nous ne touchons aucune aide financière, ni de l'Europe, Europe, ni de l'agriculture française.
Alors ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on ne pensait pas à ce genre de fracture hein, quand on a monté cette émission, même si du côté de Saint-Étienne-le-Molard, vous nous appelez dans la Loire, j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de ces fractures auxquelles on pensait tout à l'heure. Mais cela dit, il y a aussi des professions, effectivement, des professions qui se sentent aujourd'hui oubliées, délaissées, pour peu qu'elles ne rentrent pas dans les cases. Là, voilà, visiblement, c'est un peu votre cas. Hein, au ministère de l'Agriculture, on fait peu de cas des éleveurs. Donc c'est tout cet ensemble que vous voulez. Alors évidemment c'est pas un numéro d'un journal qui va changer les choses du côté de la Croix. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, Guillaume Goubert ?
Eh ben justement une attention. Je crois que c'est peut-être le mot qui est le plus important, c'est avoir de la considération pour toutes ces situations comme celle que Martine vient de décrire également. Et j'imagine que ce type de métier permet aussi de faire vivre des territoires, de permettre à des gens de vivre, j'allais dire, librement de leur travail. Et ça demande beaucoup d'attention. Et on est dans des systèmes qui sont des systèmes d'attention, justement, qui sont de plus en plus standardisés, de plus en plus monocolores. Et regarder cette diversité de la France dans tous ces métiers, dans toutes ces façons de vivre, etc., c'est certainement une manière de construire un avenir.
Alors, on va marquer une courte pause. On n'en a pas totalement fini avec vous, Guillaume Goubert. Je crois qu'on va avoir un maire d'une de ces communes qui se sentent oubliées, hein, qui va intervenir. Et puis ensuite, eh bien, on va parler de la fibromyalgie, cette maladie. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de maladie. En tout cas, il y a débat, y compris chez les médecins, cette pathologie. Je ne sais pas. En tout cas, on va nous expliquer qu'on n'explique pas bien, mais qui fait vivre un enfer à des millions, des centaines de milliers de personnes. A tout de suite sur RTL. On attend là aussi vos témoignages.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parizeau.
Et pour conclure notre débat sur la France fracturée, nous sommes ravis d'accueillir Yannick. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Yannick.
Vous êtes maire de Saint-Ouen-en-Brie, une petite commune rurale en Seine-et-Marne.
Tout à fait, oui.
Alors, dites-nous.
Eh ben, y a un point qui n'est jamais évoqué, qui est en fait, quand il y a une répartition des dotations de l'État qui ont été faites dans les années 50-60, on avait effectivement un monde urbain qui avait tous les services et un monde rural où il y avait purement de l'agriculture.
Ouais.
Or, si vous voulez, si je prends les chiffres actuels, un maire comme moi qui est en zone rurale touche 64 euros de l'État par administré. Un maire d'une commune urbaine en touche le double, 128.
Ah oui ?
Or, mes habitants, ils ne veulent plus de nid de poule. Les nid de poule, ça faisait rire dans les années 50 pour les Parisiens qui allaient en vacances. Ouais. Mais moi, maintenant, ils veulent la fibre. Ouais. Ils veulent avoir les services pour les scolaires. Ils veulent avoir le périscolaire. Ils veulent tout avoir. Ouais. Donc, je suis face à une population qui a exactement les mêmes exigences qu'en ville et j'ai deux fois moins de moyens par tête d'habitant pour le résoudre. Et ça, c'est un problème qui n'est jamais soulevé.
Ah bah c'est essentiel même ce que vous soulevez. Et moi-même, je découvre d'ailleurs que par habitant, hein, la dotation, elle est deux fois moindre, comme si effectivement un habitant de la campagne avait moins de besoins qu'un habitant des villes.
Exactement.
C'est incroyable.
Et avec surtout, je vous dis, cette évolution de la population qui maintenant a les mêmes exigences, voire pire qu'en ville. Ouais. Alors en plus, on se trouve maintenant, disons, dans des situations où vous avez des zones urbaines où toutes les infrastructures ont été créées. Or nous, on voit arriver des populations nouvelles qui sont exigeante parce qu'il va falloir développer les collèges, il va falloir des gymnases, il va falloir ce genre de choses. Et on travaille avec moitié moins de budget par tête d'habitant. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas logique.
Mmh. Pour conclure, Guillaume Goubert, au fond, on a tous besoin d'égalité.
Solidarité, moi je dirais solidarité du territoire, par exemple, comme dans l'exemple qui vient d'être évoqué, on a véritablement besoin de repenser cette solidarité.
Merci beaucoup. Merci Yannick d'avoir
Yannick.
Témoigné
c'était
sur
RTL. C'est très intéressant et très important de souligner ce point.
Et merci à vous Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix. On renvoie vers votre journal pour ce passionnant numéro spécial aujourd'hui qui s'intitule Réparer la France.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
RTL Midi.
Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau, Christelle Rebière.
Deuxième invité des auditeurs ont la parole, le professeur Francis Berenbaum. Bonjour.
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 Vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On vous remercie d'être avec nous à l'occasion de cette journée mondiale de la fibromyalgie, un mal qui touche près de 2 millions de personnes en France, mais dont on sait apparemment bien peu de choses, si ce n'est en tout cas que ceux qui en souffrent parfois vivent l'enfer. Justement, d'abord, essayons de définir un petit peu de quoi on parle. Quels sont les symptômes, professeur Berenbaum, de la fibromyalgie ?
Bah, en fait, bien sûr, les symptômes au premier plan, c'est d'abord la douleur.
C'est des patients qui se plaignent de douleurs très diffuses. C'est-à-dire, en gros, on a l'habitude de dire, c'est des patients, quand ils viennent dans notre consultation, nous disent, voilà, j'ai mal partout. Donc ça, c'est déjà le premier élément. En plus de ça, il y a d'autres symptômes qui s'y associent, qui peuvent être de l'insomnie, des difficultés de digestion, qui peuvent être également des problèmes de dépression, mais ça justement, ça fait partie de la question, savoir si c'est la conséquence ou pas. Et donc, en fait, des troubles fonctionnels intestinaux. Voilà, donc en fait, c'est assez diversifié, une grande fatigue également, mais quand même, ce qui est au premier plan, c'est la douleur.
C'est une douleur assez insupportable, en fait. On n'a plus du tout le même seuil de douleur.
Voilà, exactement. En fait, il y a un problème de perception de la douleur. Vous savez, quand vous vous cognez quelque part, vous avez une douleur qui est très vive, mais ensuite, la douleur, elle disparaît après quelques secondes, quelques minutes, en fonction du traumatisme. Ce qui se passe, c'est que chez ces patients-là, eh bien, ça ne s'arrête pas. Et l'autre élément, c'est que, vous voyez, quand vous vous appuyez sur un muscle, vous sentez vous avez une sensation, mais il n'y a pas vraiment de douleur.
Non.
Chez les patients qui ont une fibromyalgie, cette même pression va provoquer une douleur. Donc, vous voyez, c'est à la fois une absence d'inhibition du signal de la douleur, mais également le fait que le niveau de douleur est ressenti très vite.
Bon, et aujourd'hui, il y a encore un véritable problème de diagnostic sur cette fibromyalgie, professeur ?
Oui, il peut y avoir des problèmes diagnostiques, même si c'est tout de même moins long qu'auparavant. Mais les problèmes diagnostiques sont souvent liés au fait que ces douleurs sont proches des articulations. Et bien, quand on a mal proche d'une articulation, on peut aussi considérer que cette douleur est liée à un rhumatisme inflammatoire ou une arthrose ou un autre problème articulaire. Et donc, oui, il peut y avoir un retard diagnostique qui peut parfois être long. En plus de cela, parfois, cette douleur n'est pas vraiment prise en considération et on prend plus en considération l'aspect parfois dépressif plutôt que l'aspect douleur.
Et puis ça pose aussi la question de la formation des médecins à la prise en charge de la douleur. Juste une question, parce qu'on va prendre Marion et Sophie, ce sont deux femmes. Est-ce que les femmes sont plus exposées que les hommes ?
Oui, clairement, on évalue environ 80% la répartition hommes-femmes, c'est-à-dire 80% de femmes pour 20% d'hommes environ, peut-être même encore plus, mais encore une fois, on n'a pas d'explication à cette différence-là.
Et on accueille Marion qui est en Ille-et-Vilaine. Bonjour Marion.
Oui, bonjour.
Bonjour Marion.
Parlez-nous de vous.
Aujourd'hui, je me suis permise de vous appeler parce que je vous écoute chaque jour. Et donc, je souffre de cette fibromyalgie très invalidante.
Depuis quand ?
Quelques semaines. Enfin, disons qu'elle a été diagnostiquée en 2003.
Oui. Donc ça fait 15 ans à peu près, oui, 14 ans.
Oui. Et il faut vivre avec. On est quand même, on se retrouve très isolé. La douleur est permanente. Parfois, nous avons du mieux, quelques semaines, quelques mois.
C'est une douleur qui est localisée ou qui est généralisée, Marion ?
Elle est généralisée.
Ouais. Et elle vous empêche de vivre normalement ? C'est-à-dire de vivre au quotidien avec votre famille ? C'est
ça ? Oui, bien évidemment. Cette semaine, je n'ai pas pu sortir de la maison. Je reste des semaines entières à la maison sans pouvoir aller faire de courses, etc., marcher. Beaucoup de marches, c'est pas possible.
Donc vous n'avez pas d'activité professionnelle ?
Non. Non, elle est très invalidante.
Oui, ce n'est pas possible.
Et ce n'est pas possible, même si je trouvais un travail, personne ne pourrait...
Alors, vous êtes suivie, est-ce qu'on vous donne des médicaments, au moins antidouleurs, des choses...
Oui, je suis suivie par une rhumatologue qui me donne du topalgique, etc., mais je ne suis pas soulagée. En ce moment, la crise est extrêmement forte et je ne suis pas soulagée.
Professeur Berenbaum, Marion, elle est suivie, on lui donne des médicaments et elle dit, je ne suis pas soulagée, et à tel point qu'elle ne peut pas sortir de chez elle.
Ben oui. Déjà là, on entend quand même la grande détresse et on entend l'importance du handicap. C'est vraiment le propre des maladies articulaires, des maladies osteo-articulaires, c'est ce niveau de handicap qui est absolument très 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 important. En ce qui concerne les traitements, on n'a pas de traitement miracle pour cette maladie. Sans doute d'ailleurs parce que on ne comprend pas les mécanismes. Et avant de pouvoir traiter une maladie, efficacement, il faut en comprendre les mécanismes. Donc là, on voit qu'il y a un déficit. Mais il faut quand même également préciser que le traitement de la fibromyalgie, ce n'est pas uniquement les médicaments. Et peut-être même, je dirais que c'est à mettre un second niveau. Mmh. En premier lieu, le traitement de la fibromyalgie est un traitement qu'on appelle, nous, dans notre jargon, non pharmacologique, qui ne s'appuie pas sur les médicaments. Il faut absolument que ce type de prise en charge qui peut s'appuyer par exemple sur l'activité physique, la reprise d'une activité physique, par exemple, ça c'est tout à fait fondamental dans le traitement de ce problème.
Pardon de vous interrompre, on fait une petite pause et dans un instant justement vous allez nous en parler plus longuement de ces traitements et on remercie Marion d'avoir fait le 32-10. Merci.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Avec le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et avec vous au 32-10 pour évoquer cette fibromyalgie, cette maladie maintenant identifiée, mais dont on sait bien peu de choses et qu'on ne guérit pas, qu'on ne soigne pas. Et on a Marie qui nous appelle de Lille. Bonjour Marie.
Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour docteur.
Bienvenue.
Diagnostiqué il y a 4 ans, c'est ça ?
Oui, diagnostiqué il y a 4 ans après une bonne dizaine d'années d'errance médicale parce que j'étais suivie par un médecin généraliste qui connaissait très mal la pathologie et qui me disait que sur les examens, il ne voyait rien, donc je n'avais rien. Mais je souffrais, donc il me donnait des anti-inflammatoires ou des choses comme ça pour me rassurer ou peut-être se rassurer.
Mais qu'est-ce qu'il vous disait comme explication ? Parce qu'à un moment, vous lui disiez bien...
Il me disait, c'est dans la tête, il faut prendre sur vous.
Ah oui, oh bah ça c'est rassurant.
Professeur
on vous interpelle évidemment.
C'est dans la tête, il faut prendre sur vous. J'imagine que vous avez entendu des patientes et des patients à qui on a dit ça ?
Ah oui, oui. Non. Alors ça, c'est tout à fait un grand classique. Hein. C'est tout à fait ce qui est souvent entendu par les patients pendant très longtemps. Alors, sans doute lié également à un manque de formation pendant les études sur cette pathologie, et puis également sur le fait que nous, médecins, quand on ne comprend pas quelque chose, on a quand même tendance à dire c'est dans la tête, hein, jusqu'au jour où on découvre l'origine.
Ouais. Alors là, c'est bien de le reconnaître, professeur.
Non, mais on l'a vu avec un exemple il y a quelques années qui était l'ulcère à l'estomac, hein, le prototype de la maladie psychosomatique, et puis on s'est aperçu que certains patients avaient en fait une bactérie dans leur estomac et après traitement antibiotique, l'ulcère était guéri. Donc Marie, si vous voulez, on a des exemples comme ça.
Mais Marie, comment ça va aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça va. J'ai toujours des douleurs, mais j'ai repris une activité. J'ai été en arrêt maladie assez longtemps parce que les douleurs étaient vraiment très difficiles à gérer. Mm-hmm. Puis le manque de sommeil, le sommeil non récupérateur, etc. Mm-hmm. Là, j'ai repris une activité. Je suis reconnue travailleur handicapé. Donc
vous avez changé de médecin ?
J'ai changé de médecin qui m'a envoyé chez un rhumatologue qui m'a dit « Mais madame, c'est la fibro, j'ai aucun doute là-dessus. Mm-hmm. » Et là, bon, je me suis dit « Ouf, enfin, je ne suis pas folle. »
Voilà, je ne suis pas folle, il y a un nom. Voilà.
Et il m'a dit « Vous le prenez bien. » Mais je lui ai dit « Écoutez, docteur, je dis, maintenant je sais ce que j'ai, je sais contre quoi je dois lutter. » Qu'avant, quand on n'a pas de nom à poser dessus, c'est difficile.
Professeur Berenbaum, vous voulez réagir à ce que vient de dire Marie ?
Oui, parce que c'est très très important. La reconnaissance de cette maladie, c'est absolument fondamental pour les patients. Et je dirais même que ça fait partie du traitement. Quand on a quelque chose, quand on a une souffrance, le fait de pouvoir mettre une étiquette dessus, eh bien déjà, c'est avancé dans le traitement parce qu'on avance un peu moins dans l'inconnu.
Ben oui, c'est ce qu'on dit quand on nomme quelque chose, cette chose existe. Hein, c'est valable aussi pour les maladies. Restez avec nous, Marie. On a aussi Sophie qui est en région parisienne. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Bonjour, Sophie. Diagnostiquée en 2006.
Oui, tout à fait.
Et vous aussi, ça a été difficile à diagnostiquer ?
Alors, moi, j'ai eu une chance. D'abord, j'étais hyperactive. J'avais deux métiers, 4 enfants. Enfin, une vie très, très chargée. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon médecin me connaît depuis toute petite. Donc, quand il m'a vu arriver de façon récurrente à lui dire « j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux poignets, je ne peux plus faire à manger, je ne peux plus marcher, je ne peux plus descendre l'escalier », eh bien, au bout, je dirais à peu près de 6 mois, il m'a dit « je crois avoir posé un nom sur ta pathologie, je vais t'envoyer voir un rhumatologue qui, effectivement, sur différents points de compression à différents endroits, m'a enclenché une douleur, mais intense, et qui perdurait. »
Oui.
Alors que voilà, j'avais un seuil de tolérance à la douleur très important. Mmh. Et puis donc je me suis écroulée, c'est-à-dire je pouvais plus marcher. Comme a dit une dame précédemment, pas dormir. Donc vous vous réveillez, mais vous avez... Moi, je lisais le matin, j'enfilais mon manteau de douleur. Mon mari m'habillait, je ne pouvais pas me laver les dents, vous voyez. Et je suis restée comme ça, bloquée pendant 3 ans à la maison.
Qu'est-ce qui vous a aidée, Sophie, d'après vous?
Alors, ce qui m'a aidée d'abord, c'est le regard de mes proches, surtout de mon mari et de mes enfants. Parce que j'avais tendance à aller sur des forums pour voir comment s'en tiraient les gens qui, comme moi, avaient cette maladie. Mm-hmm. Comme la dame précédemment à l'hôpital Bichat, on me disait « Mais madame, vous êtes dépressive. Mm-hmm. » Je me disais « Mais j'ai pas de raison d'être dépressive. Mm-hmm. J'ai un mari qui m'aime, des enfants adorables, je n'ai pas de problème d'argent. Pourquoi voulez-vous que je sois dépressive? Je suis dépressive, oui, parce que j'ai mal. » J'ai mal partout, du matin au soir.
Sophie, pardon, je vais devoir vous interrompre parce qu'on doit aller très vite.
Mais l'entourage, en tout cas,
l'entourage a joué.
Oui.
Professeur Berenbaum, l'entourage, évidemment, c'est fondamental. Côté traitement, on allait en parler tout à l'heure. Le sport?
Oui, l'activité physique, c'est très important. Le fait de faire bouger les articulations, bien évidemment, sans que ça provoque de la douleur, encore une fois, donc ça doit être encadré. Mais on sait aujourd'hui que cette activité physique est tout à fait bénéfique. Il y a des tentatives également, par exemple, à Ambroise-Paré, il y a une tentative de traitement par stimulation intracrânienne, magnétique. Il y a des équipes qui essayent de trouver des solutions, des prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs spécialistes. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Néanmoins, il y a un grand besoin de recherche dans le domaine. Et j'ai entendu pendant la campagne présidentielle le projet de travailler sur le handicap dans le programme d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut impérativement, et c'est un appel que je lance, il faut impérativement que les maladies osteoarticulaires fassent partie de ce programme handicap parce que les patients le demandent. Ils nous le demandent tous les jours.
Eh ben, vous l'avez fait sur RTL, vous l'avez lancé cet appel. Merci professeur Francis Berenbaum. Je rappelle que vous êtes le chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On remercie évidemment
Sophie,
Marion et toutes celles qui ont fait le 32-10 pour témoigner. On marque une pause et on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment.
Laurent Gérard.
Vous écoutez RTL.